Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 24 mars, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors c'est une très belle journée, ce matin le ciel est dégagé, c'est autour de 1 degré et on prévoit du soleil, des nuages en alternance avec un maximum de 4 degrés. En soirée, quelques nuages encore une fois, évidemment c'est plus froid, moins 7. Pour la fin de semaine, ben là, on prévoit du temps gris, il n'y a pas de soleil. Ça commence par des nuages samedi relativement tôt. La neige qui devrait commencer en après-midi. Certains parlent de neige fondante parce que le maximum sera autour de 1 degré et mêlé de pluie. Donc, il y a peut-être 5 cm de neige qui vont tomber. Puis, ajouter à cela 5 mm de pluie. Il y aura de la pluie également dans la nuit de samedi à dimanche ou de la neige, on verra. Et puis dimanche, ben c'est de la pluie intermittente. Alors en gros, neige, pluie, du temps gris pour toute la fin de semaine. Première nouvelle ce matin, ben c'est l'entente conclue entre le président Biden et le premier ministre Trudeau. Ce sera confirmé plus tard ce matin pour la fermeture du chemin Roxham. Les modalités, les détails restent à préciser, mais semble que le Canada accepte d'accueillir 15 000 demandeurs d'asile au cours de la prochaine année. Et que ce serait donc récurrent. Je faisais le tour ce matin, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux pays subissent de fortes pressions de l'immigration. Évidemment, au Québec, on est très conscient avec tous ces gens qui passent par le chemin Roxham, mais je dois vous dire que, par exemple, en Ontario, dans le secteur de Niagara, parce qu'on a transféré ces réfugiés vers d'autres provinces pour mettre moins de pression sur le Québec, ben, ils trouvent ça moins comique un peu aussi, là. Alors, vous avez l'approche de la saison touristique et ils se disent, on peut pas garder tout ce monde-là. Et le président Biden, qui a une pression évidemment énorme au sud, veut tout faire pour réduire l'entrée de réfugiés. Et donc, ces migrants, si vous voulez, vont devoir passer par les postes frontaliers et s'inscrire dans le cadre d'une procédure normale. Comme les gens qui arrivent en avion, comme les gens qui arrivent par train, doivent le faire quand ils font cette demande de statut de réfugié au Canada. Puis, ça ouvre une enquête. Beaucoup d'organismes sont furieux. Ils auraient souhaité une autre approche qu'une fermeture complète, en disant que les gens qui se déplacent sont des gens qui veulent fuir la violence, qui veulent fuir statut économique terrible, et qu'ils ont besoin, soit au Canada, soit aux États-Unis, de trouver une nouvelle façon d'envisager la vie. Et que ce sont des gens qui peuvent contribuer à la société, comme on l'a vu, par exemple, durant la pandémie. Mais en même temps, il y a cette capacité d'accueil. Combien on peut accueillir de gens? Puis on parle ici de réfugiés, mais il y a des immigrants. Il y a ceux qui entrent de façon légale. Et c'est tout ça qui est en cause. Et on sait que M. Trudeau veut augmenter considérablement le nombre d'immigrants. Et ça, il le répète sans arrêt. Et c'est sa vision et c'est son objectif. Et je pense que ça, aussi, faut voir la capacité d'accueil. Et on sait que le Québec et le Canada sont pas du tout à la même place là-dessus. Donc, est-ce que ça va freiner les mouvements de migrants? Ça reste à voir. Mais ce qui est clair aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent, notamment qui viennent du Mexique, qui viennent de d'autres pays d'Amérique centrale et qui tentent d'entrer soit au Canada, soit du côté américain. Et il y a également, bien sûr, d'autres enjeux de cette rencontre au sommet. Le premier ministre Legault qui a dit qu'il faut arrêter de prendre, disons, de tenir pour acquis que cette politique de fermeture des Américains, ce qu'on appelle du protectionnisme en matière économique, c'est normal puis c'est acceptable. Et on le sait qu'il y a une préférence d'achat qui empêche les entreprises canadiennes québécoises d'aller décrocher des contrats. Et M. Legault veut qu'il y ait un déblocage. Et quand vous regardez les enjeux, là, ce qu'on voit, c'est un intérêt évidemment énorme des Américains pour les matières premières au Canada. Puis le Canada, puis le Québec répondent oui, mais c'est pas vrai que vous allez venir, comme vous l'avez fait durant plusieurs décennies, vider le sol et faire les produits à l'extérieur du Canada et du Québec. Donc, il y a évidemment cet enjeu-là, appelons ça de solidarité économique nord-américaine. J'entendais des experts dire, si on veut se battre contre la Chine, les Canadiens et les Américains ont intérêt à s'entendre là-dessus. Et puis, il y a toute la question d'Haïti, où là-bas, c'est un climat de violence, de guérilla urbaine pratiquement, avec des politiciens instables, un régime qui vacille, et des gangs criminalisés qui mènent le désordre et qui créent le chaos dans le pays. Et les Américains veulent que le Canada joue un rôle plus actif, pas juste former des policiers, là, mais peut-être une présence plus musclée à Haïti pour tenter de calmer la donne. Mais M. Trudeau, jusqu'à maintenant, refuse d'aller aussi loin. Autre dossier, celui des Airbnb. Bon. Il y a eu cette rencontre hier avec la ministre Caroline Proulx. Les patrons de Airbnb sont sortis muets. Pas d'écho de la rencontre. La ministre a promis d'être beaucoup plus sévère, de modifier les règlements. Et puis, entre-temps, il y a cette enquête menée par le Journal de Montréal ce matin. Ils ont fait une tournée de certains logements, chambres allouées dans des immeubles appartenant à Maître Benhamor, qui est, vous le savez, le propriétaire de l'immeuble qui a pris feu dans le Vieux-Montréal. Et il y a potentiellement 7 personnes qui sont décédées. Il y a 4 corps jusqu'ici qui ont été localisés. Et là, soyons bien clairs, là. Il est le propriétaire de ces immeubles, mais la location semble faite par des locataires ou par des gens, là. C'est un peu bizarre comme structure. Mais ce qui est important de noter, et c'est ça qui, je pense, est un irritant, c'est que malgré, semble-t-il, des visites d'inspecteurs de la Ville de Montréal ou du service des incendies, on se retrouve avec des endroits à louer qui sont non conformes et qui sont dangereux. Et c'est Martin Nobert, qui est le président de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec, qui est allé visiter ces immeubles. Puis, ils sont partis des annonces sur Airbnb, immeubles survigés et ailleurs. Et puis, on se rend compte qu'à plusieurs endroits, vous avez comme des espèces de fausses fenêtres. Ça, c'est un exemple. Vous avez aussi un endroit, une espèce de sortie de secours de la chambre qui est pas fonctionnelle parce qu'il y a un grillage anti-vol qui est cloué. Et donc, ça empêche de bouger. Et là, il note ça, lui. Puis, vous avez les détails dans le Journal de Montréal. Puis là, je vous parle pas des odeurs et tout ça. Mais tu dis, comment des taudis, semble-t-il, sont inspectés par la ville, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que on sait pas trop exactement qui loue ça. Puis en plus, ils sont dans des endroits, dans bien des cas, où la location, où ce modèle de location à court terme est pas permis. Je vais parler avec la mairesse de Montréal un peu plus tard ce matin, Valérie Plante, mais des chambres pas de gicleurs, sans fenêtres, sont encore alloués disponibles. Et là, je précise, pas par le propriétaire, par des gens qui décident de faire ce type de commerce. Quant à l'avocat de Maître Benhamor, Maître Bergevin, semble-t-il qu'il n'avait pas le temps pour répondre aux questions du Journal de Montréal hier. Dans The Gazette ce matin, on met le projecteur sur l'hôpital du Lakeshore qui connaît des problèmes à répétition à l'urgence. Aaron Derfeld nous apprend qu'on a dû déplacer des patients sur des étages parce qu'on manquait de personnel à l'urgence. Et mercredi soir, le temps d'attente sur Civière, tenez-vous bien, là, c'était 51h26. C'est probablement l'attente la plus longue au Canada. 51h26. Et donc, on a déplacé des patients. On a dû fermer des lits, entre autres parce qu'il y a des candidates au poste d'infirmière qui doivent passer un examen le 27. Fait qu'ils sont pas disponibles avant le 28. Et série de facteurs là qui amènent une crise. Il y a une enquête qui est menée, qui a été décrétée par le ministère de la Santé concernant les circonstances dans lesquelles certains patients sont décédés avec des bris d'équipement, du manque d'équipement. C'est l'urgence, je dirais, la plus à risque, probablement, de tout le réseau de la santé au Québec. Et ça s'est confirmé encore cette semaine. Autre affaire, je ne sais pas si vous avez vu le reportage à enquête sur l'agence de sécurité Neptune. C'est une agence qui a beaucoup de contrats, puis des contrats avec le gouvernement fédéral, des contrats aussi avec des entreprises. Et on a appris quoi dans ce reportage? Que celui qui est le patron, mais qui dit ne pas être le patron, disons, a deux identités. Ajoutez à cela des employés mal payés. Alors, ils participaient à des appels d'offres, comme ils l'ont fait, par exemple, à Verdun, soumissionnaient très bas, mais après ça, ben on se retrouvait avec des employés non payés. Et vous avez ce patron double identité, je suis pour moi le patron, etc. Puis on s'entend, là, espèce de coquille qui se trouve à l'extérieur du Québec. Et une agence qui, quand même, est allée chercher des contrats, moi, c'est ça qui me dépasse, là, venant d'organismes publics. Il y a deux questions qui se posent quand vous regardez ça, là. Tu dis, mais comment ça se fait que la GRC, la Sûreté du Québec et le ministère de la Sécurité publique font appel à l'agence pour des services? Et donc, les deux questions qui se posent, là, puis le ministre Bonnardel a réagi à ça. Le Bureau de la sécurité privée a fait quoi dans ça? Là, enquête a mené le dossier, mais c'est quand même une situation qui existe depuis longtemps. Et savez-vous quoi? Le Bureau de la sécurité privée était au courant. L'UPAC était au courant. On a beau avoir des organismes qui ont certains pouvoirs, si on laisse aller des individus comme ça dans le marché, puis qu'on dit rien, puis qu'on est même prêt à leur accorder la permission d'aller chercher des contrats, il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job, là. Puis il y a des questions à poser à l'UPAC puis au Bureau de la sécurité privée. Ça, c'est le minimum. Et au-delà de la façon dont les employés sont traités, je vous dis, là, l'UPAC, ça sert à quoi? Y a-t-il quelqu'un qui va commencer à leur brasser un peu la cage? On n'entend parler de rien à l'UPAC. Zéro. Pas un son. Puis Bureau de la sécurité privée, je voyais les propos du gars. Ça s'appelle l'avoir échappé d'aplomb. Dossier des taxis. On va aussi y revenir ce matin. Dans la presse, on nous faisait découvrir ces faux taxis à l'aéroport de Montréal. Pratique qui existe dans beaucoup de pays. Alors, il y a eu une rencontre entre le PDG d'Aéroport de Montréal et la ministre Geneviève Guilbeault. 400 infractions qui avaient été signalées. Et là, je vous le dis, beaucoup de commentaires de chauffeurs de taxi qui m'ont écrit, de passagers, des gens qui se sont fait intercepter. Et paraît-il que c'est pas toujours très chic, hein, la façon dont ces chauffeurs illégaux accrochent les passagers. Puis là, vous avez beaucoup de touristes qui arrivent, puis tu sais, tu te fais prendre ta valise. Il y a un gars qui m'a décrit, là, il sort à l'extérieur de l'aéroport, puis il y a un gars qui prend sa valise, puis qui dit, venez-vous-en avec moi. Le gars disait, t'es qui? Non, venez-vous-en, j'ai ma limousine pas loin, puis j'ai un forfait, puis ça vous coûtera pas cher. Puis le gars est obligé de résister, puis tirer sur sa valise pour se sauver de cette situation. Et là, encore une fois, discussion sur les taxis. L'attente à l'aéroport. Puis là, il y a Uber aussi qui a maintenant la possibilité d'y aller. Et je vous dirais que c'est assez compliqué qui, dans ce cas-là, aurait normalement, c'est le bureau là, du taxi qui aurait dû gérer ça. Mais là, on a aboli ça, puis on a instauré un climat, disons, du grand n'importe quoi. Alors voilà pour ce qui est du dossier du taxi. Toujours dans la presse, le SPVM qui enquête sur un réseau de fraudeurs qui aurait floué ou tenté de flouer la Société d'assurance automobile du Québec et des compagnies d'assurance. Donc Daniel Renault qui nous dit... Des cascadeurs, des faux blessés, des véhicules accidentés plusieurs fois. Le SPVM qui enquête sur une série suspecte d'accidents de la circulation. Des mises en scène. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis pour des poursuites aux civils. tu simulais une blessure en tombant sur un trottoir, puis tu réclamais au propriétaire de l'établissement. Puis c'était là pratiquement des acteurs qui faisaient ça, puis un dédommagement. Puis t'arrivais blessé. Ben là, il semble que ça s'est fait également à Montréal, puis que au volant de ces accidents, de ces véhicules accidentés plutôt, ben ce sont des cascadeurs. La grève se poursuit à l'Université Laval. Je sais que ça inquiète beaucoup de parents qui m'écrivent là. Et c'est surtout de voir une session prolongée, une récupération, puis pour des étudiants, ben ce sont des emplois et de l'argent perdu. Et j'en ai beaucoup là qui m'écrivent. Il y a beaucoup d'étudiants de Montréal ou du Grand Montréal qui sont à l'Université Laval. Puis là, c'est l'impasse complètement. Et c'est pas mal paralysé dans les négociations entre les profs et la direction. Et puis un mot sur la France, les manifestations qui officiellement ont regroupé plus de 1 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur. Les syndicats parlent de 3,5 millions. Il y a eu 457 interpellations en France, 440 policiers qui ont été blessés et qui se sont retrouvés donc à l'hôpital. Vous avez l'hôtel de ville de Bordeaux où des feux ont été allumés. Et je vais vous dire une chose, ça brûlait pas mal. Et on prévoit d'autres manifestations. La grève des éboueurs a été reconduite au moins jusqu'à lundi prochain. Et il faut dire que le président Macron en a ajouté pas mal là, en disant que c'est pas la rue qui va dicter au gouvernement quoi faire. Il était sincèrement là d'une arrogance suite à l'adoption de cette réforme des retraites. Mais on voit que la colère monte et que beaucoup de Français sont furieux. Est-ce qu'on va retrouver le phénomène des gilets jaunes? C'est très possible. Mais en tout cas, on peut dire que hier, là, ça a été une des journées où ça a brassé le plus.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On a vu cette étude de la santé publique concernant le nombre de Montréalais, c'est 50, 60 000 Montréalais, qui, dès la première année de la pandémie, se sont tournés vers le jeu en ligne. Il y a d'autres personnes qui étaient déjà branchées et qui ont vu leur consommation, j'allais dire, de jeux en ligne augmenter durant la pandémie. Ce matin, on parle avec Annie. Évidemment, c'est pas son vrai nom, vous comprenez pourquoi. Et c'est une femme qui a joué beaucoup durant la pandémie et qui a mis beaucoup d'argent dans les machines. Annie, bonjour.
Oui, bonjour.
Peut-être nous dire un peu comment vous avez commencé à jouer en ligne. Qu'est-ce qui vous a intéressé?
J'ai commencé simplement parce que pour passer le temps, puis c'était un divertissement. Puis au début, on parle d'une vingtaine de dollars par semaine peut-être. Là.
Et qu'est-ce qui vous attirait? Sur quel type de jeu vous y alliez?
Tous les jeux de roulette, à peu près tous les jeux sont intéressants.
OK. Puis donc, c'est un 20 $ puis après ça, 40 $ par semaine pour vous désennuyer.
C'est ça.
OK. Est-ce qu'à ce moment-là, vous faisiez de l'argent avec?
Plus ou moins. Plus ou moins, mais les pertes n'étaient pas très élevées, étant donné que la mise n'était pas élevée.
À quel moment ça a changé?
Quand la COVID est arrivée, puis qu'on ne pouvait plus sortir, qu'on ne pouvait plus voir les gens, et qu'il s'est mis à y avoir naturellement des annonces à la télévision de multiples plateformes que je ne savais même pas qu'ils existaient. Là, j'ai joué plus. J'ai commencé à jouer plus. Les annonces m'interpellaient. Juste le bruit des sonnettes, des cloches. J'ai vu une grosse différence dans ma...
Okay.
Dans ma mise, mettons.
OK. Quand vous dites jouer plus, là, c'est à quoi une journée? Tous les jours? Une fois par deux jours? C'est à quelle fréquence?
Ben, c'est sais, une fois par semaine au début, mais après, tu commences à jouer, ben là, le jeudi soir, oups, ben là, le samedi matin en prenant ton café, le dimanche en prenant ton café, ça devient un peu à peu près n'importe quand. Jusqu'au jour où tu réalises que là, t'es rendu que tu joues pendant la nuit, en te levant le matin, à ton heure de lunch. Puis quand tu peux te mettre des limites de jeu sur l'Auto-Québec, fait exemple que ma limite est atteinte, ce qui veut dire que je peux plus déposer d'argent, ben là, je me suis tourné vers d'autres plateformes.
OK, justement, vous avez dit l'Auto-Québec, puis vous avez joué sur quelle autre plateforme aussi?
Oh, je les nomme?
Ben oui.
J'ai joué sur toutes les plateformes qui étaient annoncées à la télé, donc Play Ojo, Bet99, Jackpot City, Tony Bet. Fait que ça, c'est les quatre que je me suis inscrite.
OK. Vous dites, je jouais principalement à la roulette, des machines comme ça. Là, on parle de montants plus importants. Là. Ça veut dire que, par exemple, votre limite à l'Auto-Québec, c'était combien?
Ben, au départ, disons, là, en 2019, j'en avais pas de limite parce que je m'auto-limitais à 20$ par semaine.
Oui, oui.
Mais là, quand j'ai commencé à jouer plus, ben là, évidemment que ton budget en prend un coup, c'est que là, tu te mets une limite, disons, 500$ par semaine. Mais ta tête de gambler, quand tu as atteint ta limite, ben t'as encore le goût de jouer, mais là, t'es bloqué. Fait que tu vas sur l'autre plateforme, puis tu détermines ta prochaine limite. Fait que tu rejoues, vous comprenez, ça a comme plus de sens, là.
Est-ce que vous savez combien vous avez joué au total?
Ben, sur l'Auto-Québec, oui, je le sais. Sur les autres plateformes, non. Sur l'Auto-Québec, à vie, j'ai mis 149 000 $.
Puis vous avez gagné combien d'argent?
112 000.
Vous êtes chanceuse quand même?
Je me considère chanceuse. Mais tu sais, si je refais le calcul, on est en mars. J'ai déjà mis 45 000 $ depuis le début de l'année. Ça, ça fait peur. Parce que 45 000 sur le 149, comprenez, le 149, là, c'est 3 ans. Là. Fait que si on enlève le 45 000...
Mais vous devez avoir des bons revenus, là, parce que ce sont des montants importants là, si vous êtes à coût de 1 000, 2 000, 3 000 par semaine.
Oui. Donc, disons qu'on espère gagner. Puis quand on perd, ben notre tête de gambler veut continuer à jouer pour se refaire.
Ça veut dire que vous jouez encore, mais vous êtes consciente qu'il y a un problème.
Ben c'est certain. C'est difficile à expliquer. C'est comme, je sais pas, il y a comme un manque d'air dans le cerveau parce que je le sais que je joue beaucoup trop. Mais je retourne jouer, comprenez-vous? Puis je veux dire, je suis consciente, là, je suis lucide, je prends pas de drogue. J'y vais consciemment, comprenez-vous ce que je veux dire?
Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont remarqué que ce qui était peut-être un divertissement de courte durée, c'est devenu une passion un peu envahissante?
Oui, mais je m'arrange un peu pour... que ça paraisse, comprenez-vous? Tu sais, t'es avec des amis, la famille, un gros souper, ben, tu vas pas aller jouer pendant qu'ils sont là. Naturellement, tu vas attendre qu'ils partent, puis tu vas ouvrir ton ordinateur, ta tablette. Il n'y a pas d'heure, c'est ouvert 24 heures sur 24, comprenez-vous? C'est accessible, là.
On a vu des cas où des gens ont perdu beaucoup d'argent, d'autres, des gens se sont rendus malades. Avez-vous l'impression que vous allez devoir, comme on dit, frapper le fond pour arrêter ou...
Ben, j'espère pas. Je veux arrêter. Là, je suis en mode de recherche, de passe-temps, divertissement, parce que c'est très prenant. Vous comprenez, on joue pas juste une heure par jour, par semaine. Ça peut, tu sais, on peut jouer des 10-12 heures... Fait que c'est prenant, fait qu'il faut que tu remplaces ça par quelque chose d'autre. Là, c'est pas juste l'argent, c'est ça que je veux dire.
Mais vous étiez pas une joueuse compulsive avant?
Ben, du tout. J'avais aucune idée que j'avais ce problème-là en moi. Zéro. Je suis allée au casino deux fois dans ma vie. J'avais aucune idée que je serais embarquée de cette façon-là.
On va vous souhaiter de trouver d'autres divertissements puis de trouver une façon de vous sortir de ça puis surtout pas de laisser trop d'argent sur la table.
Ben merci bien. Puis ce serait peut-être bien que l'Auto-Québec mette un frein sur les annonces télé puis les plateformes qui sont soi-disant illégales au Québec. Ben pourquoi est-ce qu'ils ont autant le droit de passer des publicités?
C'est une bonne question. Merci beaucoup, Annie.
Merci.
Annie, c'est donc un nom fictif, vous comprendrez, et on a joué aussi avec la voix pour protéger son anonymat, mais ce qu'elle traduit, c'est ce qu'on retrouve dans cette enquête de la santé publique. Et c'est clair que pendant la pandémie, au tout début, avec le confinement, et je le rappelle, le martèlement des annonces de tous ces sites en ligne, puis l'Auto-Québec est embarqué dans la danse à un moment donné, ben des gens qui avaient, je dirais, pas de problème avant, ben, on commençait à jouer, et jouer beaucoup. Et je sais que quand on n'a pas cette maladie-là, là, ou ce problème-là, ben, en tout cas, disons que on a de la misère à comprendre. Puis l'offre est tellement large. T'sais, l'Auto-Québec, c'est quand même un peu plus contrôlé. Mais les autres sites, tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer tant que tu veux, tu peux... Et je pense que, d'ailleurs, la question de la pub était soulevée par des gens qui ont fait cette enquête à la santé publique. On va parler de logement, puis on va parler de Airbnb ce matin. D'abord, il y a eu cette rencontre hier à Québec avec la ministre Caroline Proulx. Les deux représentants de Airbnb n'ont pas été très bavards. Alors, on ne sait pas exactement quels seront les changements de la réglementation ou l'inscription obligatoire du fameux numéro de certificat. Mais c'est sûr qu'il y a un problème. Et la preuve, ce matin, il y a le Journal de Montréal qui est allé se promener dans des immeubles qui appartiennent à Émile Benamor, qui est le propriétaire de l'immeuble où s'est déclaré cet incendie. Je rappelle que potentiellement, on parle de 7 personnes décédées, 4 corps qui ont été localisés, 3 personnes qui manquent à l'appel. Et là, on comprend que M. Benamor est le propriétaire des immeubles, mais que des gens à l'intérieur de ces immeubles font de la location courte durée, ce qui est une chose. Et dans bien des cas, c'est illégal, il n'y a pas de numéro. Puis dans d'autres cas, ben là, on parle de problèmes assez sérieux, de salubrité, des chambres où il n'y a pas de gicleur, il n'y a pas de fenêtre. Et paraît-il que ça a été inspecté. Puis il y a toute la question du logement aussi, globalement, qu'on va regarder ce matin. Notre invitée, la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Madame Plante, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, je commence avec l'histoire de Airbnb. Je comprends que c'est une juridiction partagée, là, une compétence partagée, mais comment peut-on avoir à Montréal des endroits, paraît-il, inspectés, où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de gicleur, puis que les sorties de secours sont bloquées?
Ben en fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est en quoi, une fois que l'inspection est faite, est-ce qu'il y a des changements qui sont faits par la suite par les propriétaires ou, comme vous le disiez dans votre introduction, des gens qui louent puis qui après ça le mettent sur une plateforme. Est-ce qu'il y a une subdivision qu'ils font eux-mêmes? C'est là où il y a quand même une certaine difficulté. Ceci étant dit, moi, je me réjouis vraiment de l'annonce du gouvernement du Québec d'exiger de Airbnb que les propriétaires ou ceux qui veulent louer mettent leur numéro de certification parce que ça va aider le gouvernement du Québec à faire appliquer sa loi. Puis nous, ça va nous aider l'arrondissement de Ville-Marie, mais la ville, à appliquer le règlement où on dit il y a des zones où on peut avoir de la location à court terme de type Airbnb ou d'autres. Alors ça va vraiment venir faciliter, enfin, ça va améliorer les processus, puis les processus de plainte.
OK, mais ça, je comprends, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état des lieux. C'est-à-dire que quand je vois puis je répète, là, des endroits pas de fenêtres, l'issue de secours de la chambre n'était pas fonctionnelle en raison du grillage antivol qui était cloué au mur extérieur. Est-ce que c'est visité? Est-ce qu'il y a des suivis d'inspection? Y a-tu des amendes, des avertissements? On dirait qu'on peut faire à peu près n'importe quoi dans les immeubles.
Ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le domaine privé, nécessairement, il y a des règles qui s'appliquent. Puis après, il y a le domaine public. Donc, les inspecteurs, par exemple, de la Ville de Montréal, qui sont les mêmes qui font le processus de plainte quand il y a des locations illégales. Alors, eux, ce qu'ils font, s'il y a une plainte qui a été formulée, ils peuvent aller sur les lieux. pour évaluer la situation. Mais sinon, sur le domaine privé, il y a pas, la ville ne va pas inspecter chaque maison, chaque immeuble privé sur l'île de Montréal. Donc, ça fonctionne par plainte. Et on peut à ce moment-là sévir et faire des corrections ou enfin exiger des corrections. Mais encore faut-il qu'on puisse pénétrer sur le domaine privé.
OK, mais ce que vous me dites, dans le fond, c'est qu'à Montréal, on peut faire à peu près n'importe quoi tant qu'il n'y a pas de plainte.
Ben, j'ai pas envie, pour être bien honnête, c'est pas tant une question de Montréal, c'est une question qu'il ne peut pas avoir des inspecteurs de la ville de Montréal qui vont inspecter sur le domaine privé chaque bâtiment et chaque maison. Tous les bâtiments de la ville, évidemment, qu'on en a beaucoup, de la même façon que le gouvernement du Québec va faire l'inspection ou les édifices fédéraux, il va avoir une inspection faite par eux pour être conforme. Si on est sur le domaine privé, s'il y a une plainte, on peut intervenir, on peut aller voir. Mais la problématique, c'est si par la suite ou entre-temps, il y a d'autres modifications qui sont faites. Et ce que je voulais mentionner, M. Arcan, c'est que devant cette difficulté-là de pénétrer sur le domaine privé puis faire des inspections, puis une certaine incapacité, encore une fois, des inspecteurs de la ville à couvrir avec raison l'ensemble de la ville de Montréal, comme toutes les autres villes du Québec, nous, on a un programme de propriétaires responsables qui vise justement, ça va être un peu comme une loi, un registre où les propriétaires vont devoir se conformer à certains éléments, dont la question de la salubrité, la question de la sécurité du bâtiment, parce qu'on voit malheureusement qu'il y a certains propriétaires récalcitrants de grands ensembles immobiliers, on l'a vu dans le passé, qui encouragent les rénovations, qui vont pas nécessairement s'occuper de leur bâtiment.
Mais ça, je comprends ça, là. Mais je vous dis pas d'inspecter chaque maison de Montréal, mais quand il y a des immeubles où on fait ce type de location, est-ce que l'inspecteur a le droit d'aller voir dans quelles conditions ça se passe?
Oui, absolument. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il y ait une plainte.
Mais sans plainte, ça, là, sans plainte, de dire là, je pars puis je fais la tournée de tous les endroits qui sont affichés, mettons, avec des espaces de location court terme.
Enfin, alors, c'est là que le numéro de certification, c'est vraiment important, M. Arcan, parce que même si vous allez sur une plateforme en ce moment, même si vous regardez une adresse, c'est vrai qu'il y a plein d'adresses dans le Vieux-Montréal, mais en fait, c'est pas tant des adresses qu'une certaine localisation. Ça nous donne une idée, mais on n'a pas les adresses. C'est le fardeau de la preuve. Un inspecteur peut pas débarquer comme il veut sur le domaine privé s'il n'est pas en train de faire une preuve. Et c'est de là qu'on a besoin vraiment du numéro de certification, comme d'autres provinces, dont la Colombie-Britannique a. Ça facilite encore une fois, le travail des inspecteurs de la ville, puis ça va permettre de respecter la loi du gouvernement du Québec avec eux, leurs enquêteurs, avec Revenu Québec.
Mais avec le cas de ce matin, là, est-ce que c'est suffisant, l'article du Journal de Montréal, pour que les inspecteurs aient voir comment ça se passe dans un immeuble comme celui-là?
Ben oui, c'est suffisant, mais je vous le dis, j'ai pas besoin d'aller dans le journal pour qu'il y ait des inspecteurs. Il faut qu'il y ait une plainte formelle. Donc, évidemment, vous comprendrez bien, de toute façon, avec ce qui s'est passé avec l'incident, mais non, c'est pas un incident, c'est une tragédie, ce qui s'est passé dans le Vieux-Montréal. Nos inspecteurs sont aux aguets. Donc, l'article du Journal de Montréal va nous faciliter la tâche, mais c'est sûr qu'on est là-dessus.
OK, on va parler du logement plus général. Là. Vous avez dit, après le budget présenté cette semaine, que Québec comprenait pas la crise du logement, que vous avez insisté, là. Vous avez dit, ce sont des personnes qui n'ont pas de logement. François Legault vous a répondu, il vous reste de l'argent de l'an passé. La ministre de Montréal, Mme Rouleau, là, qui est pas la responsable, mais qui est quand même ministre, a dit, Valérie Plante, tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Vous répondez quoi à ça?
Ben, deux choses. La première, j'ai envie de dire que lorsque le premier ministre du Québec, par exemple, s'en va au fédéral pour demander de l'argent pour la santé, hein, pour le bien des Québécois et Québécoises, on est tous derrière lui, puis la ministre, les ministres, les élus, on est derrière lui, la population. Alors, quand la mairesse de Montréal dit que il n'y a pas assez d'argent pour couvrir les besoins en habitation des plus vulnérables, moi, je m'attends à ce que les élus de Montréal soutiennent la mairesse, parce que ce que j'ai mis de l'avant, c'est un besoin réel. Et j'ai rappelé que c'était la mission, au même titre que la santé et l'habitation, du gouvernement du Québec de faire du logement social. Maintenant, pour ce qui est des sommes d'argent, je pense qu'on a touché à... C'est important pour moi qu'on en arrive à... Parler d'habitation, c'est complexe. Il y a toutes sortes de formes d'argent qui rentrent de différentes manières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les unités qui sont en attente, elles ne sortent pas de terre parce que la façon dont on les finance, c'est avec les enveloppes de 2009. Puis entre vous puis moi, la situation a bien changé depuis. Les taux d'intérêt sont importants. Les coûts de construction, je veux dire, on regarde juste Hippolyte Lafontaine, là, les coûts explosent. Je veux dire, c'est la même chose pour le logement social et je trouve ça dommage. Je veux dire, nous, on veut les sortir, ces unités-là. Les organismes communautaires veulent les sortir.
Mais Mme Plante, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous me dites, on se base sur du financement de 2009.
Oui.
On est en 2023.
Mm-hmm.
Je suis dans l'actualité tous les jours. Là, je suis pas un pointu de l'habitation, mais moi, j'apprends ça. Et je me dis, mais comment ça se fait que les élus de Montréal n'ont pas mis ça sur la table en disant ça n'a pas d'allure en 2012, en 2020, puis maintenant vous le faites? Il y a quelque chose qui n'a pas d'allure?
Ouais, ben, en fait, c'est en 2015 que le gouvernement, à ce moment-là, avait décidé de revenir aux anciennes enveloppes.
Bon, 2015.
Donc, jusqu'avant ça. Non, je dis ça parce qu'avant ça, ça roulait quand même bien. Là, les unités, les montants étaient indexés. Monsieur Arcand, cette question-là que vous demandez, je l'ai entendue aussi hier, puis écoutez, je suis pas allée sur la place publique avant parce que la façon dont je travaille, c'est d'amener avec les gens qui sont au pouvoir comme moi, qui ont été élus comme moi. Ça fait des années que je demande au gouvernement d'injecter du nouvel argent parce que pour l'instant, l'argent qui est là, c'est pour les anciennes unités, hein, qui se sont accumulées depuis 2015. Mais il n'y a jamais eu de nouvel argent ou très peu pour des nouvelles unités. Alors, vous savez, de la même façon que la ligne bleue ou encore les policiers, moi, j'ai fait ce deal-là en parlant avec les ministres responsables, en amenant mes collègues du gouvernement du Québec à embarquer dans ma vision. Mais force est d'admettre qu'ici, le gouvernement du Québec a fait un choix. Son choix, c'est des baisses d'impôts, c'est son choix. Mais moi, j'ai besoin de répéter que ce choix-là, ben, ça aurait pu faire plein d'autres choses, dont du logement social. Et je le répète, c'est la mission du gouvernement du Québec de faire du logement social.
OK, mais je comprends tout ça, là. Mais le premier ministre dit également que quand on fait affaire avec l'Office municipal d'habitation, ça prend une éternité. Puis ouais. Si je vous parle de logement en général, là, pas juste du logement abordable, mais il y a la crise du logement, ça concerne aussi des gens qui ont les moyens un peu plus pour se louer, mais qui trouvent pas. Qu'à Montréal, des projets de construction, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'aboutir. Pourquoi c'est si long?
Oui, différents éléments. Ce que je voudrais faire comme comparatif, c'est pour les faire du logement social, le plus long, c'est vraiment de faire le montage financier. Parce qu'une fois que le montage financier est fait, qu'avec avec l'argent suffisant, ça prend à peu près le même temps pour du privé ou du communautaire qui fait le logement social pour sortir les unités. Sérieusement, c'est à peu près de l'ordre de 3 ans, là. Entre 3 et 4 ans, ça peut être 2 ans dans certains cas, dans les meilleures années, là, quand on n'avait pas une pénurie de main d'œuvre puis des coûts de matériaux. Donc, une fois que le montage financier est fait, j'entendais M. Ferrandez qui l'expliquait bien hier également, le chemin du combattant où là où c'est difficile pour les organismes, puis pourquoi ça prend du temps, c'est de combiner les différentes sources de revenus, puis encore une fois, à la base, l'enveloppe d'accès logis qui a fait tellement d'unités de logement. Il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Là. Ils ont fait tellement d'unités, mais là, à un moment donné, c'est presque mission impossible. Et là, parfois, ils vont avoir finalement leur financement, mais ça a repris 2 ans. Puis là, finalement, les coûts ont augmenté. Et ce que je voulais vous dire, parce que je sais, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de tout le monde, sauf de Montréal, absolument pas. Mais ce que je veux quand même dire, c'est que donner les permis et tout le reste, là, c'est comme pour avec le privé. Ça roule somme toute assez bien, mais le chemin du combattant, c'est de faire le montage financier.
Mais ça, je comprends ce que vous me dites, mais c'est pas normal. Puis je dis pas que c'est, je suis pas en train de dire que c'est la faute d'un puis de l'autre, là. Mais en crise de logement, que ça prenne 3 ans puis 4 ans à faire atterrir, puis comme on dit, débarrer la porte pour que des gens puissent aller vivre, quelque chose qui marche pas.
C'est plus long que ça. Pour le logement social, c'est plus long que ça.
Mais ça n'a pas de bon sens.
Je vous disais, là, le 3 ans, en général, c'est pour du logement privé ou du logement communautaire et social pour le construire. Pour du logement social, j'ai des projets en attente là, que le gouvernement vient de financer, une partie. Ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous avez raison de dire que ça n'a pas de bon sens. Mais ce que je trouve dommage là-dedans, c'est le gouvernement s'attaque pas à l'élément de base. Si les sommes étaient suffisantes dans accès logis, avec des coûts qui sont réalistes, basés sur la réalité de 2023 et non pas de 2009, on les sortirait, ces unités-là. Après ça, je peux améliorer des processus de permis, là. Moi, là, je suis là. D'ailleurs, j'aimerais ça aussi rappeler que la ville de Montréal Nous, on ne construit pas, on participe au montage financier, mais j'ai acheté pour 120 millions de terrains de bâtiments dans Villery, dans Parc Extension, pour du logement social, M. Arcan. Je n'ai pas l'argent, j'ai pas d'argent neuf du gouvernement pour les construire. J'ai 600 unités qui seraient prêtes. Là! Alors, à un moment donné, je sais que c'est complexe pour la population. Le gouvernement a dit, oui, je vais financer certaines unités en attente, mais depuis plusieurs années, le gouvernement, contrairement à tous les autres gouvernements avant lui, qui a toujours investi du nouvel argent pour des unités, il n'y en a pas dans ce budget-là et depuis quelques années déjà, malheureusement.
La prochaine étape, c'est quoi? Vous appelez le PM, vous appelez le ministre des Finances, le ministre responsable de Montréal?
Mes arguments que je porte auprès d'eux depuis de nombreuses années, depuis qu'ils sont élus et depuis que je suis élue, et j'avais vraiment confiance que ce budget-là allait mettre, insouffler de l'énergie pour tout le monde en disant il y a une crise du logement. La prochaine étape, c'est bien sûr de travailler avec mes collègues de partout à travers la province parce que Montréal, c'est la tête de flèche. Mais la crise du logement est à Thetford Mine, elle est à Gaspé. On est en train de freiner le développement économique de la province parce qu'on n'est pas capable de loger le monde, autant la classe moyenne qui a de la difficulté et les plus vulnérables, c'est-à-dire le logement social. Donc, on va mobiliser les forces vives. Bien sûr que je serai en communication avec le gouvernement du Québec pour dire on peut pas attendre au prochain budget. Plus on attend, plus le rattrapage, les 24 000 ménages sur la liste d'attente, là, juste à Montréal. Ça continue à augmenter. Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'on... Je souhaite que le gouvernement du Québec puisse injecter rapidement des nouvelles sommes d'argent pour le logement social et, dernier élément, sauver AccèLogis.
Mais c'est pas juste injecter de l'argent, c'est simplifier le financement. C'est-à-dire que même si je vous donne 25 millions, 50 millions, 200 millions... Si après ça, on sait pas trop... Ce que Luc disait hier, c'est que il y a tellement... Le montage financier est tellement complexe, puis vous l'avez dit un peu.
Oui, tout à fait.
C'est ça qui prend du temps. On peut-tu simplifier les affaires? Comme
absolument.
Les Airbnb, on peut-tu simplifier les affaires? Je veux dire, c'est toujours compliqué quand on a affaire à des administrations puis des gouvernements.
Écoutez, moi, là, je vais vous dire, là j'ai fait une table tactique, là, avec, j'avais l'IDU avec moi, j'avais des groupes techniques qui construisent du logement social. Nous, on a une volonté ferme de faire partie du débat, pas du débat, de simplifier les choses. On a une cellule facilitatrice qui vise à, dans Ville-Marie, entre autres, à dire, là, faut que les permis, ça sorte, puis encore plus efficacement. On est engagé là-dedans. Moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement du Québec prenne, je veux dire, encore une fois, pour le logement social, là, dise, OK, moi, je prends mon bâton, et puis, on va mener la barque, on va asseoir fédéral, provincial. Mais vous savez quoi? Si, pour X raisons, pour eux, c'est peut-être pas la priorité, et je dois dire que le budget, pour moi, en ce moment-ci, me donne cette impression, moi, je vais le faire.
Parfait. Merci, Mme Plante. Bonne journée.
Merci. Bonne
au
journée.
Revoir.
Au revoir.
Valérie Plante est la mairesse de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On sait, je le disais, que l'annonce va se faire par le président Biden, le premier ministre Trudeau, un peu plus tard aujourd'hui. On va discuter de ce contexte avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien, bonjour.
Qu'est-ce que vous comprenez? Je comprends que c'est pas l'annonce officielle, là, mais des détails connus jusqu'à maintenant au sujet du chemin Roxham.
On est très, très loin de l'annonce officielle. En fait, on peut même pas s'inquiéter ou se surprendre qu'il n'y ait pas de changement comme tel au chemin Roxham. Il y a, pour l'instant, probablement quelque chose d'assez avancé en termes de négociation qui pourrait être finalisé dans les prochaines heures. Mais je doute que l'annonce qui serait faite après-midi par M. Biden et Trudeau soit complète et finale. Il restera éventuellement un document à libeller que les partis devront faire entériner d'une manière ou d'une autre, à moins qu'il ait été très, très rapide. Et là, on est un peu mieux que dans la spéculation sur la teneur de la chose, mais c'est pas concluant. Il y aurait, je le mets au conditionnel parce qu'on ne connaît pas les détails, un élément ajouté à l'entente entre les tiers pays sûrs qui fait en sorte que quand tu fais une demande d'asile, si tu es dans un territoire sécuritaire, que ce soit le Canada ou les États-Unis, il n'y a pas d'autres partenaires, mais tu peux pas demander asile dans l'autre. Et parce que ça, ben, ça s'appliquait dans tous les postes frontaliers normaux, réguliers, officiels. Les gens passaient par d'autres chemins. Ils se sont tous ramassés au chemin Roxham, ou presque, d'où l'emblème du chemin Roxham. Le changement, ce serait que l'entièreté de la frontière de 9000 kilomètres au total entre les États-Unis et le Canada serait considérée comme un point d'entrée officiel. Donc, si tu arrives par ailleurs, précisément le chemin Roxham dans le cas présent, tu vas te faire dire, écoute, tu peux pas rentrer ici parce que tu es déjà dans un pays sûr et l'exception qu'on appliquait jusqu'à maintenant avec des chiffres complètement faramineux n'existe plus. Ça va changer quelque chose, c'est clair. Les gens qui vont intercepter vont dire, tu peux pas rentrer dans ces conditions-là. Okay. Va faire ta demande au poste régulier. Ça, c'est un progrès. Ce qu'on sait pas, c'est que les États-Unis auraient négocié quelque chose qui ressemble à nous, on a un surplus de migrants, puis on voudrait que vous vous engagiez à ne pas appliquer la capacité de les virer de bord, puis que vous en acceptiez de toute façon, même s'ils viennent des États-Unis, un certain nombre de milliers par année. Et ça, ben c'est le risque potentiel de ça.
Mais ce qu'on comprend, puis c'est peut-être pas ça non plus, là, mais ça voudrait dire que quelqu'un qui part, je sais pas moi, du Nicaragua, qui arrive à traverser les États-Unis, son objectif est de venir au Canada, il demande pas l'asile, il arrive à un poste frontalier, procédure normale, il pourrait le faire.
Il pourrait le faire dans un poste régulier, normal, en effet, s'il fait partie des X milliers. S'il fait pas partie du volume, on l'a entendu 15 000, mais ça, pour moi, on est encore dans le n'importe quoi, là. S'il fait partie du 15 000, dont qu'on déterminera, je sais pas comment, ben, il va se faire dire, OK, ça marche, toi, tu peux rentrer pareil, parce qu'on a promis au président Biden qu'on allait en prendre 15 000 malgré les règles. Mais au-delà de ce chiffre-là, il se fait dire, non, tu es dans un pays sûr, tu peux pas rentrer. Comprenez qu'il reste bien des affaires à régler là-dedans, puis la notion de, nous, on va accueillir ce que vous trouvez que vous avez de trop chez vous, c'est pas une évidence. Déjà, que le chemin Roxham soit fermé en termes de type d'accès, c'est une chose. Déjà que ça suggère que les gens pourraient rentrer par n'importe quel point à la frontière canadienne, c'est déjà un progrès. Mais si les politiques d'immigration du Canada, qui sont déjà un peu barre ouverte, devaient être entérinées de façon formelle dans une entente, il faudra au moins voir c'est quoi le chiffre de ça, là.
Il y a beaucoup de groupes communautaires là, qui soutiennent les réfugiés, qui sont inquiets là, puis à partir d'éléments, disons, pas très complets d'informations, mais qui disent on va pénaliser des gens dont la vie est menacée, des gens qui sont dans des conditions économiques épouvantables. On devrait avoir une formule autre et moins radicale que la fermeture du chemin Roxham.
Bon, il n'y a personne qui abolit les conventions de Genève, là. Les gens qui sont aux États-Unis, qui veulent rentrer au Canada, sont pas dans un pays où leur vie est en danger. Je comprends très bien la situation des Haïtiens après l'autorisation spéciale donnée par Barack Obama, qui avait peur qu'elle soit suspendue par Donald Trump et qui s'en venait au Canada. C'est une chose. Mais a priori, lorsque tu es aux États-Unis, tu n'es pas sous le joug des cartels de la drogue au Mexique. Il y a quand même des nuances importantes à amener là. Le travail des groupes communautaires pourrait, je dis bien au conditionnel, pourrait être facilité par une meilleure réglementation, un encadrement formel de la circulation aux frontières que les Américains souhaiteraient aussi parce que ça commençait à jouer d'un deux bords. Il y avait des gens qui arrivaient du Mexique surtout, qui débarquaient à Montréal puis qui essayaient de retraverser aux États-Unis. Ça dérangeait les Américains. Et c'est strictement pour ça qu'ils ont commencé à négocier puis à parler avec Ottawa. C'est pas parce que Justin Trudeau a décidé qu'il voulait protéger la langue et la culture du Québec.
Non, puis on voit que Biden a changé de ton aussi. La grande ouverture du début de mandat laisse place à des mesures plus strictes d'interception puis de retour dans le pays d'origine aussi.
Oui,
il y a un changement de ton.
La révolution de passer de M. Trump à M. Biden, au début, c'était évidemment très, très important. Après ça, la réalité rattrape peut-être un peu pour des considérations politiques. Mais il y a une volonté de rendre les choses plus régulières. On ne pouvait pas continuer à tolérer que ce soit l'exception qui devienne la règle et que ce soit essentiellement au détriment de l'État québécois qui devait espérer naïvement franciser tout ce beau monde-là et après ça, leur fournir les services de santé, les services d'éducation et tout ça. Maintenant, moi, je n'ai aucune garantie au moment où on se parle que l'entente va être bonne pour le Québec. Aucune. Et je verrai selon ce qui sera négocié et le détail de ça ne sera probablement pas connu cet après-midi, mais on aura probablement une belle opération de relations publiques. Au moins ça. Pour le reste, il faudra peut-être attendre.
M. Blanchet, merci. Bonne journée.
Un grand plaisir.
Au revoir. Yves-François Blanchet, qui est le chef du Bloc québécois.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Je me tourne vers notre collègue Valérie Beaudoin, qui est aussi chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand et qui va couvrir aujourd'hui cette rencontre Biden-Trudeau. Valérie, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, bon, là, on vient de parler du chemin Roxham. On verra cet après-midi. Il y a quand même d'autres enjeux importants, là, au cours des discussions entre les deux.
Oui, bien, les États-Unis, c'est certain qu'ils veulent, eux, leur priorité, c'est demander aux Canadiens d'être plus actifs dans leur rôle en Haïti. Parce qu'on sait, il y a une crise sociale, il y a une crise humanitaire qui touche justement l'immigration aussi, parce que si la crise ne se règle pas là, il y a des gens qui vont quitter le pays de plus en plus. Et là, on apprenait dans la presse ce matin, on va voir si ça va être confirmé plus tard aujourd'hui, qu'on veut pas, du côté du Canada, diriger une force internationale, impliquer l'armée, mais plus se concentrer du côté des policiers qu'on va former en Haïti, donner de l'argent aussi. Bref, ça, c'est un des dossiers. Puis du côté canadien, pour moi, la priorité, à mon avis, de Justin Trudeau, au-delà du dossier de l'immigration, c'est l'économie, c'est le protectionnisme, parce que le fameux « Buy American » là, que Biden a répété maintes et maintes fois là, dans son discours sur l'État de l'Union il y a quelques semaines, on n'est pas loin du « America first » de Donald Trump. On est juste dans un vocabulaire qui est différent, mais ça reste la même approche de dire « on priorise ce qui se passe aux États-Unis et on va moins regarder du côté des partenaires économiques comme le Canada. »
Mais est-ce que les Américains et les Canadiens n'ont pas un intérêt à être un peu plus, disons, à travailler un peu plus ensemble face, disons, à la Chine?
Oui, ben oui, ça aussi, c'est vrai que c'est dans les dossiers. La Chine, la Russie, l'Ukraine, tout ça, c'est tout interrelié. Et la pression de Biden sur Trudeau, c'est justement d'en faire plus, de donner plus d'argent pour la défense, parce que les États-Unis, ils ont donné quoi? 50 milliards, je pense, en 2022 pour l'Ukraine. On veut que les partenaires aient un rôle plus important. La Chine, même chose. Les cyberattaques, le fameux ballon espion, je rappelle qu'il a quand même traversé le territoire canadien en plus du territoire américain, donc il y a cette coordination aussi qui s'est faite entre les services de renseignement. On veut que le ton soit aussi dur du côté du Canada vers la Chine. Et tout ça, c'est dans l'optique aussi qu'on veut pas ce bloc fort Russie-Chine qui est en train de se construire ou de continuer justement de se développer, d'ailleurs avec la rencontre qu'il y a eu dans les derniers jours. Donc, on veut un rôle plus important de la part du Canada à l'international.
Tu parlais de protectionnisme tantôt. Il y a aussi l'enjeu des matières premières. Et bon, on voit les usines qui fabriquent des composantes pour les voitures électriques s'installer. Mm-hmm. On veut éviter que, comme on dit, les Américains viennent vider le sous-sol et aillent produire les produits finis chez eux.
Oui, ça aussi, c'est un enjeu. Dans un sens, nous, on veut aussi exporter des choses aux États-Unis, des produits, tu l'as dit, des matières premières, mais à quel prix? Et il faut vraiment aussi bien négocier ça et savoir est-ce qu'on va vider tout le stock pour après ça que les Américains se revirent, pardon, de bord, puis qu'on décide de pas aller chercher autre chose au Canada. Donc, il faut quand même bien calculer ça, parce que pour l'instant, ils sont dans leur intérêt. Les Américains veulent tout acheter pratiquement aux États-Unis, mais on le sait que dans le concret, c'est pas ça qui se passe. Le Biden a beau dire, on veut de A à Z, de la matière première à la matière finale, ça va se faire 100% aux États-Unis. Il ne peut pas faire tout ça sans venir aller chercher des produits au Canada, sans aller chercher autre chose au Mexique et ailleurs sur la planète. Donc, il y a le discours de Biden aussi politique devant les Américains électoralistes et il y a le discours aussi de coulisses qu'il va avoir avec Justin Trudeau ou que les hauts fonctionnaires vont avoir pour s'entendre au niveau économique et au niveau de toutes ces ententes-là.
Merci Valérie. Alors, bonne journée. Elle va donc suivre ça de près et elle va participer aux différentes émissions. Valérie Beaudoin, qui est chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien, on a parlé beaucoup avec les tragédies qu'on a malheureusement vues récemment. On pense à Amqui, on peut penser à ce qui s'est passé à Laval. Toute la question de la santé mentale qui a été ramenée sur la place publique. Et avec Dr Marie-Ève Coton, on a mis en lumière aussi que ben, des gens qui ont peut-être pas des maladies mentales, mais qui vivent des moments difficiles, de l'isolement, difficulté de socialiser, puis qui consomment également des stupéfiants, de la drogue, de l'alcool, ça peut les amener à basculer. Et la question qu'on se pose tous, c'est quoi le portrait de la production puis de la consommation de drogue dure, par exemple, à Montréal? Le commandant Simon-Luc Tanguay, qui est le chef de la section de lutte au crime organisé pour le Sud-Ouest et s'occupe justement de la prévention des surdoses, est avec nous. Monsieur Tanguay, bonjour.
Bonjour.
Question bien simple pour commencer. Qu'est-ce qui se consomme dans les rues de Montréal?
En fait, il se consomme plusieurs produits malheureusement. On a toujours les stimulants qui se consomment depuis plusieurs années. Là, quand je parle de stimulants, cocaïne, crack, méthamphétamine, amphétamine, ça se consomme encore. Mais on a, depuis quelques années, on a entendu parler de la crise des opioïdes, donc le fentanyl, le carfentanyl et tous ces dérivés. Ils s'en consomment beaucoup. Je vous dirais que le fentanyl, depuis les deux dernières années, a pris beaucoup de galons, si je peux dire ça comme ça, sur le marché. A même dépassé le marché de l'héroïne qui était prisée auparavant. Donc, le fentanyl est prisé. Et il y a plusieurs autres substances qui circulent. On parle de différents comprimés aussi, là, que ce soit des comprimés d'ordonnance, d'ilodide, de Xanax, qui sont des noms qui sont peut-être plus connus. Ça circule également là sur le territoire montréalais. Donc c'est à peu près ça l'ensemble des drogues. C'est sûr qu'on s'assure toujours d'avoir une certaine vigie sur les nouvelles tendances, les nouvelles drogues qui vont arriver sur notre territoire. Autant avec mon équipe interne, avec qui on fait une vigie des stupéfiants, et on regarde tout ce qui se fait à prime abord au niveau américain en premier. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau américain pour les tendances. Mm-hmm. Ensuite de ça, on va regarder dans l'Ouest canadien, que ce soit la Colombie-Britannique, l'Ontario. Si je peux dire, on a quand même la chance ou l'opportunité de rarement être les premiers à avoir...
De voir venir un peu.
On est rarement les premiers d'avoir le phénomène.
Savez-vous ce qui s'en vient?
En fait, nouvellement, on a sous la loupe la xylazine. La xylazine, récemment, il y a eu quelques articles là, dans les journaux par rapport à cette substance-là. Et en fait, on l'avait sous la loupe depuis à peu près l'été, où on avait lu des articles provenant des États-Unis, majoritairement...
Ça, c'est un médicament pour les chevaux.
Utilisé en médecine vétérinaire, effectivement. C'est rien d'encourageant, là, à première vue. Et on l'avait décelé majoritairement aux États-Unis à l'été. Philadelphie est aux prises avec une crise de xylazine énorme. Et les États du Nord. Donc, quand on a vu ça, on s'est attardé au problème. On a vu qu'il y en avait un petit peu dans l'Ouest canadien et en Ontario. Et récemment, là, je vous dirais peut-être il y a 3 semaines, grâce à notre vigile, grâce à la détection rapide, on a pu voir qu'on a des échantillons positifs à Montréal à la xylazine.
OK. Quand vous saisissez des millions de comprimés, ça veut dire qu'il y a des gens qui en achètent des millions de comprimés dans le sens où c'est un marché là important, c'est pas marginal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ces produits-là que vous venez de décrire qui circulent.
Ouais, tout à fait. On a saisi beaucoup, puis on est toujours content quand on fait des grosses saisies, des saisies de millions. Je sais qu'en 2022, on a eu des millions de comprimés de saisies. Donc, on est toujours content de retirer ça de la rue, mais on est conscient que ça circule sur la rue et il y en a beaucoup. C'est un marché qui est lucratif, on se le cachera pas. Oui, effectivement, on a saisi.
Quand vous dites ça circule, là, puis je veux pas donner de trucs à personne, là, mais ça circule comment? C'est facile à trouver? Il n'y a pas de... Je sors d'ici, là, puis j'aurais pas trop de difficultés à en trouver.
Ben, tout dépendant. Les personnes utilisatrices de drogue savent très bien comment se procurer des stupéfiants. Ils ont souvent leur personne attitrée ou leur vendeur attitré. Et si la personne, on vient qu'à l'arrêter, va se faire remplacer, évidemment. On prend pas ça avec des lunettes roses en disant qu'on va éradiquer le phénomène de trafic de stupéfiants ou même de consommation de stupéfiants, loin de là. Mais, tu sais, est-ce que c'est facile? Peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, pas nécessairement si facile de dire je veux m'acheter du fentanyl. Non. Mais est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Puis les gens qui désirent en utiliser peuvent s'en trouver.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de surdose?
Il y a beaucoup de cas de surdose. Par contre, je dois vous dire que depuis à peu près 2 ans, c'est stable. Au SPVM, on répertorie la statistique sur des événements sur lesquels on intervient. On est capable de dire, ben, au SPVM, on est intervenu dans tant d'événements et depuis 2 ans, c'est à peu près stable. Donc, toutes les relations d'aide qu'on va offrir aux personnes qui ont des malaises, les administrations de naloxone, les assistances à urgence santé. Donc, je peux vous dire que de notre côté, c'est quand même assez stable. Il y en a beaucoup. On assure une vigie avec nos différents partenaires là, par rapport justement aux surdoses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on travaille avec la Direction régionale de la santé publique de Montréal, nos partenaires d'urgence santé, le Laboratoire des sciences judiciaires et médecine légale, le Bureau du coroner. Là, j'oublie des partenaires, là, certainement, mais on assure une vigie ensemble, on se tient main dans la main et chacun de notre côté, on regarde qu'est-ce qui se passe sur notre dans notre champ de compétences. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu policier? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu ambulancier? Au CHUM également? Qu'est-ce qui se passe dans les établissements de services de consommation supervisés aussi? Qu'est-ce qu'on a vu en termes de surdose? Et à ce moment-là, ça nous permet de réagir par rapport à une situation en particulier ou une nouvelle substance ou quelque chose qui serait vraiment dérangeant, qui arrive à répétition.
Si on prend le cas de vendredi dernier, le jeune homme qui est accusé d'avoir tué son père, sa mère, sa grand-mère, consommait, semble-t-il, d'après ses propos, avait arrêté. Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent ou est-ce que vous êtes capable de dire, dans tel événement, la consommation de substances a joué un rôle ou pas de rôle? Êtes-vous capable de faire un portrait ou c'est pas, vous en tenez pas compte?
Non, mais il n'y a pas de chiffres officiels parce que c'est multifactoriel. Dans la majeure partie des cas, c'est multifactoriel. Oui, il y a de la consommation de stupéfiants. Il y a des problèmes de santé mentale. Il y a d'autres enjeux aussi, peut-être familiaux ou contextuels, là, que je ne sais pas. Mais c'est vraiment difficile d'arriver à la fin de l'événement puis dire c'est à cause des stupéfiants.
Que ça soit toujours la cause, mais que ça soit un des éléments.
Ouais. Mais tout à fait. Comme je vous dis, la statistique propre à combien d'événements sont reliés en partie à de la consommation de stupéfiants, je ne l'ai pas. Est-ce que ça joue un rôle dans beaucoup d'événements violents? Certainement. Certainement.
Souvent même.
Oui. Oui.
Est-ce que, vous parliez tantôt des profits, donc en fait l'argent que ça génère, là. Est-ce que ce sont des substances, dans certains cas, des auteurs qui me rapportent ça, où les prix sont coupés pour attirer une clientèle, puis que finalement, tu peux te doper pour pas trop cher?
Oui, ben il y a des substances qui nous inquiètent particulièrement sur ce volet-là, c'est tout ce qui est les comprimés, tout ce qui est les comprimés qui se vendent à un prix ridicule qu'on peut consommer, qui peut être aussi attirant pour des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, même pour la jeunesse. C'est un comprimé à 5-10 $, puis on part là-dessus pour quelques heures. Donc ça c'est vraiment inquiétant. Donc est-ce que les gens coupent les prix pour la compétition? Je vois pas nécessairement ça sur la rue. Est-ce que ça peut arriver de façon anecdotique? Probablement. Mais les prix sont sensiblement les mêmes depuis plusieurs années là, pour les diverses quantités là, de stupéfiants.
Puis est-ce qu'il y a des faux produits? C'est-à-dire qu'on vend, mettons, un dilodide, mais dans le fond, c'est pas un dilodide, là?
Une question qui nous inquiète tout le monde, tous les partenaires, que ce soit les policiers ou le milieu social, le milieu communautaire, c'est lorsque une personne utilisatrice de drogue va recevoir quelque chose qui est non désiré. Exemple, quelqu'un veut consommer un dilodide. Parfait, commande un dilodide, se retrouve avec un isotonitazène, par exemple, qui n'est pas la substance qui était désirée. On peut prendre l'exemple aussi, quelqu'un qui commande du crack, finalement, se retrouve avec du crack contaminé au fentanyl. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer, travailler.
Est-ce que ça arrive souvent?
Ça arrive. Souvent? Non, mais quand ça arrive,
ça a
des effets épouvantables. On veut être au-devant de ça. C'est pour ça qu'on travaille avec tous nos partenaires qui nous informent d'une situation qui arrive. OK, on a un patient ici qui commande du crack à l'habitude et aujourd'hui, il a filé tout croche. On a un échantillon de substance qui lui reste. On l'analyse en urgence. On vérifie le produit. Et là, ben, on va donner la réponse la meilleure. Est-ce qu'elle est en répression d'aller arrêter la personne qui distribue cette substance-là sur le territoire à l'insu des consommateurs? Est-ce qu'elle est en prévention d'informer les consommateurs puis tous nos partenaires communautaires de dire il y a une substance qui circule dangereuse, il y a un vendeur qui est dangereux, informer les personnes utilisatrices de drogue.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, M. Tanguay.
Ça fait plaisir.
Commandant Simon-Luc Tanguay, du SPVM, chef de la section de la lutte au crime organisé pour le Sud-Ouest, et il s'occupe aussi beaucoup de tous ces cas de prévention de surdose.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.